VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 8 août 2016. Au sommaire ce soir...
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno investit aujourd'hui pour un cinquième mandat.
Plus que jamais, nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre à l'égard de l'ensemble des Tchadiennes et des Tchadiens, pris collectivement et individuellement.
En République démocratique du Congo, 14 personnes ont été tuées la nuit passée dans l'est du pays. Des attaques attribuées à des groupes armés congolais et étrangers.
Nigeria, le leader de Boko Haram, promet d'intensifier son combat djihadiste.
Attentat au Pakistan, plus de 70 personnes ont été tuées par un kamikaze devant un hôpital du sud-ouest du pays.
Politique américaine, Donald Trump annonce une nouvelle révolution économique.
Ne manquez pas nos rubriques économie et les sports. Les Jeux Olympiques se poursuivent. L'Afrique a obtenu sa première médaille la nuit dernière. Mais d'abord, le journal.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a prêté serment pour un cinquième mandat dans un climat tendu après la mort dimanche de manifestants à N'Djamena lors d'une marche d'opposants qui contestaient sa réélection, Salwa Jafari.
Edo 5, Idriss Déby maintient son fauteuil, un fauteuil qu'il occupe depuis 1990. Dans son discours d'investiture, l'ancien militaire de 64 ans a promis une lutte implacable contre le terrorisme devant une quinzaine de chefs d'État africains. Parmi les invités à la cérémonie, le Nigérian Muhammadu Buhari, le Nigérian Mahamadou Issoufou, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Roch Kaboré du Burkina, Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie ou encore le Congolais Joseph Kabila. Le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian était aussi présent. L'investiture intervient dans un climat explosif. Dimanche, un jeune Tchadien a été tué par balle alors qu'il manifestait à N'Djamena à l'appel de l'opposition. Un rassemblement interdit par le pouvoir pour des raisons de sécurité. L'opposition tente tant bien que mal de se faire entendre. Ses leaders ont appelé à une journée ville morte sur l'ensemble du territoire aujourd'hui. Les rues de N'Djamena étaient désertes cet après-midi.
Retrouvez les photos et la vidéo de cette investiture sur notre site voaafrique.com.
Au Burundi, l'ONU dénonce des représailles visant 4 avocats qui ont dénoncé la torture dans leur pays. Armel Nyongere, Lambert Nigarura, Dieudonné Bashira Hiwise et Vital Nchirimirimana ont contribué à un rapport de la société civile burundaise présenté au Comité des Nations Unies contre la torture. Conséquence, un procureur de Bujumbura a demandé à l'Ordre des avocats leur radiation, alléguant leur implication dans plusieurs infractions, y compris la participation à un mouvement insurrectionnel et une tentative de coup d'État.
Dans l'est de la RDC, 14 personnes ont été tuées la nuit dernière dans plusieurs localités. L'armée et les responsables locaux attribuent ces meurtres à des groupes armés congolais et étrangers. Eric Manirakiza.
Selon un porte-parole de l'armée dans la province du Nord Kivu, ces crimes ont été commis par des miliciens locaux d'autodéfense appelés Maïmaï, et les rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR. Ils ont visé la population civile et des positions des forces gouvernementales. Le capitaine Guillaume Djike a confirmé la mort de 14 personnes, dont un militaire. Ces personnes ont été tuées par balle et à la machette dans les localités de Karunga, Kacharira, Kibirizi et Abuleusa, situées dans les territoires de Rutshuru et de Walikare. Environ 150 maisons ont également été incendiées, a précisé le capitaine Djike. Ces attaques ont eu lieu quelques heures après le départ du président Joseph Kabila, qui séjournait dans la région depuis mercredi.
Nigeria, le leader de Boko Haram, promet d'intensifier son combat djihadiste. Dans une vidéo diffusée hier soir, Aboubakar Shekau réaffirme être à la tête du groupe nigérian qui fait allégeance à l'État islamique, rejetant ainsi les divisions internes révélées la semaine dernière. Paraissant être en bonne santé, encadré de 2 combattants islamistes en armes, il a soutenu qu'il n'avait aucun désir de tuer ses frères musulmans. Il répondait aussi ainsi aux critiques répétée de certains membres de l'État islamique qui lui reprochent son extrémisme et d'avoir fait des dizaines de milliers de morts depuis 2009, musulmans dans leur immense majorité.
Zimbabwe. Le président Robert Mugabe compare les manifestations contre son régime aux révolutions du printemps arabe. Le chef de l'État, âgé de 92 ans, accuse ses opposants d'essayer de le renverser par la rue. La contestation sera inutile, prévient-il.
Des manifestations antigouvernementales violemment réprimées en Éthiopie. Une cinquantaine de personnes ont été tuées ce week-end lors de manifestations dans les régions Oromo et Amara. Bilan provisoire recueilli auprès de l'opposition et de sources diplomatiques.
La Somalie désignera son nouveau président le 30 octobre. Il doit être élu au suffrage indirect.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Pakistan, plus de 70 personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées aujourd'hui lorsqu'un kamikaze a fait détonner sa charge explosive. C'était au milieu d'une foule en deuil devant un hôpital du sud-ouest du pays. Jacques Aristide.
Oui, une foule d'environ 200 personnes, dont nombre d'avocats et de journalistes. Ces gens étaient rassemblés devant les urgences de l'hôpital civil de Quetta après l'assassinat quelques heures plus tôt du bâtonnier de la province du Baloutchistan. Le lourd bilan fait le deuxième attentat le plus meurtrier au Pakistan cette année, après un carnage dans un parc pour enfants où une bombe avait tué 75 personnes lors du week-end de Pâques à Lahore. L'attentat de ce lundi et l'assassinat du bâtonnier ont été revendiqués par une faction des talibans pakistanais, Jamaat-ul-Ahrar, qui avait déjà revendiqué l'attentat de Pâques. Le premier ministre Nawaz Sharif a condamné l'attaque et ordonné de nouvelles mesures de sécurité. L'armée s'est déployée dans et autour des hôpitaux de la ville de Quetta.
Les combats pour le contrôle de la ville d'Alep dans le nord de la Syrie se sont intensifiés alors que les groupes de l'opposition ont promis de renforcer leurs effectifs et d'occuper toute cette zone stratégique. Du côté du gouvernement, l'armée a effectué de nouveaux raids aériens suite à une cuisante défaite samedi face à la coalition rebelle. Il a fallu l'intervention commune d'une trentaine de factions armées, rebelles et djihadistes, pour briser le siège imposé par les forces de Bachar al-Assad. Maintenant, l'armée tente d'éviter l'encerclement total des quartiers pro-régime à Alep.
Les organisations de défense des droits humains en Europe exhortent le président turc Recep Tayyip Erdogan à user de modération dans ses efforts visant à rétablir la peine de mort en Turquie. Lors d'une manifestation marquant la fin de trois semaines de rassemblement populaire à Istanbul, depuis le coup d'État manqué du 15 juillet, M. Erdogan a déclaré que si le peuple veut la peine de mort, il est prêt à signer toute loi votée en ce sens par le Parlement. Et des millions de personnes ont pris part à la manifestation de dimanche et des responsables d'Amnesty International à Londres se disent alarmés par la déclaration du dirigeant islamo-conservateur.
Au Japon, l'empereur Akihito, âgé de 82 ans, s'est dit aujourd'hui préoccupé par sa capacité à continuer de s'acquitter de ses obligations. Le souverain affirme qu'il attend une modification des lois qui l'oblige à rester empereur jusqu'à la fin de sa vie.
Présidentielle américaine, Donald Trump a publié son programme économique, arc-bouté sur une réduction significative des impôts des grandes entreprises. Le résultat, prédit le candidat républicain, sera la création d'emplois et l'essor de l'économie à tous les niveaux.
These reforms will offer the biggest tax revolution since the Reagan tax reform.
Donald Trump a annoncé la simplification du code fiscal comme un élément clé de son plan économique. Les riches vont payer, dit-il, mais sans affecter négativement la vie économique. Il a aussi assuré que ce plan sera profitable à la classe moyenne. Ce sera la plus grande révolution fiscale depuis le programme introduit dans les années 80 par Ronald Reagan, a martelé M. Trump. Dans ce discours, maintes fois interrompu par des protestataires, Trump promet d'apporter plus de détails dans les jours à venir. Hillary Clinton, quant à elle, devrait annoncer son programme économique plus tard cette semaine.
Fin de la grosse pagaille dans le ciel américain. Des dizaines de milliers de passagers ont vu leur vol annulé ou retardé ce lundi après qu'une panne informatique a cloué au sol tous les vols de la compagnie Delta Airlines durant plusieurs heures. La cause de ces blocages semble être une panne de courant à Atlanta où se trouve le siège de la compagnie qui a bloqué son système informatique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le journal des Jeux Olympiques sur VOA Afrique avec Nicolas Pinault. Bonsoir.
Bonsoir, chérubin. Les Jeux Olympiques ont débuté à Rio depuis vendredi et l'Afrique a dû attendre la nuit dernière pour obtenir sa première médaille.
Oui, la natation sud-africaine, c'était attendu. Il s'appelle Cameron Van Der Burg. Il s'est classé deuxième sur 100 mètres brasse la nuit dernière dans la piscine de Rio. Le temps, 58 secondes 69 centièmes. Autre bon résultat hier en football, le Nigeria poursuit sur sa lancée. Deuxième match et deuxième victoire. Cette fois, ce sont les Suédois qui en ont fait les frais. 1-0 pour les hommes de Samson Siasia. Le Nigeria se qualifie pour les quarts de finale. Les Algériens, en revanche, sont éliminés après leur défaite 2-1 face à l'Argentine. Quant aux Sud-Africains, battus par les Danois, ils devront s'imposer face aux Irakiens pour franchir le premier tour.
La journée de dimanche a vu les représentants africains enchaîner les mauvaises performances, Nicolas.
Quelques exemples. En balle, la Tunisie chez les hommes s'est inclinée face à la France, 23-25. Chez les dames, en basket, lourde défaite des Lions de la Teranga. Le Sénégal s'incline, 56-121 face aux Américaines. Couronnées d'or lors des 5 dernières éditions et largement favorites du tournoi, les Américaines. Quant aux championnes d'Afrique 2015, elles sont arrivées à Rio après un voyage harassant de 2 jours et ont connu une préparation à minima. Les Sénégalaises joueront cette nuit face à la Chine en espérant faire mieux. Écoutez l'avis de Bamba Kassé, journaliste de l'agence de presse sénégalaise.
Autant on est assez forte en Afrique, autant à ce niveau-là, c'est un autre niveau de jeu. Et les États-Unis n'ont pas fait dans la dentelle. Parce que voilà, il fallait qu'on sache exactement quel est l'écart qu'il y a entre les deux baskets. Bon, après on va continuer à jouer. Aujourd'hui on joue la Chine. Peut-être que l'écart ne sera pas aussi grand. On verra ce que ça va donner. Mais bon, le basket est venu ici avec de petites ambitions. Participer au tournoi et puis mieux se préparer pour le prochain Afrobasket.
Le journaliste Bamba Kassé au micro d'Alvaro Andrade, l'envoyé spécial de VOA à Rio. On poursuit ce tour d'horizon avec le judo. Rodrigue Kukundongala, le judoka congolais, a perdu son premier combat hier d'emblée chez les moins de 66 kilos. Le reportage à Rio de Thierry Kambundi de notre station partenaire Top Congo FM.
Aligné chez les moins de 66 kilos, Rodrigue Kuku a perdu dès son premier combat, battu 10-0 par le Dominicain Matteo Wander. Courte expérience pour ce jeune judoka congolais qui vit en Afrique du Sud et qui en était à ses tout premiers Jeux Olympiques. Toujours dans la même catégorie, le Zambien Ponza Mateus n'a pas fait mieux, éliminé à l'étape des 16e de finale par le Slovaque Gombok Adrien. Il ne reste plus que 3 athlètes de la RDC en course. Béatrice Kamushanga, jeune athlète originaire du Nord Kivu qui sera alignée sur 5000 mètres le 16 août prochain. La taekwondoïne Kele Kuroza, porte-étendard de la RDC chez les moins de 49 kilos. Le marathonien Dieu merci Makorobondo va lui clôturer ses Jeux Olympiques le 21 août courant. De Rio, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En tennis, Nicolas, il ne fait pas bon être tête de série à ces Jeux Olympiques.
Ah oui, c'était la Berezina. Novak Djokovic, numéro 1 mondial, a été éliminé par Juan Del Potro en 7-6, 7-6. Les sœurs Williams ont aussi été éliminées. Double championne olympique en titre, Serena et Venus ont été sorties dès le premier tour du double. C'était hier à Rio par la paire tchèque Lucy Safarova et Barbora Stritkova. Le score 6-3, 6-4. Même scénario pour les frères Murray.
Un mot sur le nageur américain Michael Phelps qui a remporté une 23e médaille olympique, un nouveau record.
Et celle-là, elle est en or, chérubin. Phelps l'a emporté hier soir avec le relais américain 4 x 100 mètres. Au total, Phelps a remporté 19 médailles d'or. C'est tout simplement incroyable.
À suivre ce lundi.
Le Gambien Fai Nijé sera sur les tatamis. C'est du judo chez les moins de 73 kilos. La Sénégalaise Hortense Diédiou du Sénégal en moins de 57 kilos. Et pour l'heure, au tableau des médailles, ce sont les États-Unis qui sont en tête devant l'Italie et la Chine.
Voilà pour les Jeux Olympiques. Mais un dernier mot de football, Nicolas, pour parler de Paul Pogba. Lui aussi, il rentre dans l'histoire.
Ah oui, le joueur de la Juventus de Turin devrait officiellement être transféré ce lundi à Manchester United. Le montant, tenez-vous bien, 120 millions d'euros, un record. Pogba est tout simplement le joueur le plus cher de l'histoire.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Jacques Aristide.
En Afrique du Sud, les ouvriers de trois centrales électriques de la société d'État Eskom ont commencé une grève aujourd'hui pour réclamer de meilleures conditions salariales. Le syndicat représentant ces ouvriers affirme que les négociations sont restées dans l'impasse ce week-end. Pour Eskom, il s'agit d'un arrêt de travail illégal. La compagnie a toutefois indiqué que ces opérations n'avaient pas encore été affectées ce lundi. Le Cameroun, noté pour la première fois par Moody's, l'agence américaine spécialisée dans les notations financières, en fonction du risque et de la valeur de l'investissement, a attribué au Cameroun une note de B2 pour ses obligations en monnaie locale et en devises étrangères avec une perspective stable. Cette note, d'après la propre définition de Moody's, signifie absence de caractéristiques d'investissement souhaitables dans la catégorie des obligations dites hautement spéculatives. En clair, il s'agit d'une notation mi-figue mi-raisin, car l'agence new-yorkaise a fait état de l'exposition du Cameroun à la chute pétrolière, mais évoque en même temps une éventuelle croissance aidée par les investissements dans les infrastructures. Réunion informelle de l'OPEP fin septembre à Alger. En effet, les 14 pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole tiendront cette réunion en marge du 15e Forum international de l'énergie dans la capitale algérienne. L'OPEP, qui pompe environ un tiers du brut mondial, se préoccupe du rétablissement de la stabilité et de l'ordre dans le marché pétrolier, d'après le président de l'OPEP, Mohamed bin Saleh Al-Sada.
Morgane Guiriec et Chérubin Gaby Dorsil en votre compagnie. Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Place au dossier du jour. Premier escale, N'Djamena.
Réélu avec 59,92% à l'issue de l'élection présidentielle du 10 avril, fortement contesté par l'opposition démocratique, Idriss Déby Itno vient d'être investi ce lundi à N'Djamena. Après 25 ans de règne, il présidera à la destinée du Tchad pour un nouveau quinquennat. La correspondance d'André Kodmajingar.
Ça y est, c'est fait et c'est parti pour un cinquième mandat. Quoique contesté par ses adversaires politiques, Idriss Déby Itno vient de prêter serment devant les membres du Conseil constitutionnel et 14 chefs d'État africains et autres délégations. Il prête serment en ces termes.
Nous, Idriss Déby Itno, président de la République élu selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple tchadien et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois.
Après avoir reçu des mains du grand maître de l'ordre national un insigne qui symbolise la République, Idriss Déby Itno, nouveau président de la République du Tchad, mesure la tâche qui l'attend.
En ce jour, nous venons de revêtir la charge suprême. Plus que jamais, nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre à l'égard de l'ensemble des Tchadiennes et des Tchadiens, pris collectivement et individuellement, toute obéissance politique et confessionnelle confondue. Je suis en effet le président de tous les Tchadiens.
Le président Déby a vanté les mérites de la femme dans un discours fleuve de plus d'une demi-heure, arrachant des tonnerres d'applaudissements dans la salle. Professeur Ahmad Mahamad Hassan, enseignant chercheur et politologue, fait l'analyse à chaud du discours du chef de l'État investi.
J'ai suivi tous les discours compilés de 96, de 2001, de 2006 et de 2011. C'est pour la première fois que le président Idriss Déby, réélu à un cinquième mandat, qui est sous mandat de l'Union africaine. Il a déjà repris les grandes lignes de la dernière rencontre de l'Union africaine à Kigali concernant la question de la Cour pénale internationale, concernant le rôle de l'Afrique au Conseil de sécurité, notamment à deux postes permanents avec voix délibérative, notamment le droit de veto. La campagne électorale et les élections ont été marquées par deux éléments extrêmement importants. C'est surtout la crise sociale qui a conduit à des emprisonnements, qui a conduit à une certaine question de privation de démocratie et de liberté, conduit le Tchad à un petit recul en matière de démocratie et de liberté. Et je pense que c'est un président qui annonce la tolérance, la paix et sa disponibilité pour une convergence de vues.
Une investiture coïncidée avec le mot d'ordre de la ville morte lancé par l'opposition. N'Djamena vit au ralenti. Est-ce le respect du mot d'ordre de la ville morte ou la peur d'être réprimé si l'on ouvre les commerces et le marché en pareille circonstance? C'est la confusion totale. La vie est en train de reprendre timidement cet après-midi. André Kodmadingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
en République centrafricaine, Morgane?
La cohabitation se normalise entre éleveurs peuls et habitants riverains de la Société d'État de gestion des abattoirs de Bangui. Aujourd'hui, les éleveurs peuvent librement faire paître leurs bœufs dans les parages, ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines. Il faut dire que cet unique lieu d'abattage de la capitale est insalubre. Reportage de Freeman Sipila.
Aujourd'hui, tout le cœur semble s'apaiser et la vie reprend son cours normal aux alentours de la Séga. Éleveurs et habitants riverains étaient à couteau tiré. Les uns accusent les autres d'avoir laissé leurs bœufs commettre des dégâts dans leurs concessions ou sur leurs produits étalés le long du fleuve Oubangui. Patrick est vendeur de sable.
Il y a beaucoup de problèmes parce qu'au moment qu'ils sortaient, ils sont allés chercher les herbes pour nourrir leurs bœufs. En allant, les bœufs, ils détruisent les champs, ils détruisent les sables des gens et ça devient des mésententes. Dans les quartiers là-bas, les gens qui font le chantier du brique là, le bœuf marche sur ça et ça devient toujours des mésententes. Parfois, les gendarmes interviennent pour arrêter ça, mais ce n'est pas aussi facile.
Des mésententes qui ont laissé place à des compromis. Idriss Abdoulaye est éleveur. Il peut aujourd'hui faire paître ses bœufs en profondeur des quartiers à plusieurs centaines de mètres de la Séga.
Non, il n'y aura pas la paix. Quand je lance là, il n'y aura pas les quêtes.
Non, nous n'avons plus de problème. Aujourd'hui, nous nous entendons bien. Un jour, une femme s'en était prise à moi, mais ceux qui étaient là l'en avaient défendu. Nous faisons paître nos bœufs, même en profondeur des quartiers. Si on leur demande de nous donner à boire, ils le font. Parfois, on y reste jusqu'à 13 heures avant de rentrer. Si les habitants insultent quelqu'un, ça veut dire que ces bœufs ont causé un dégât chez eux.
Pour mieux sécuriser les éleveurs et leurs troupeaux, le ministère de la Sécurité a annoncé début août la création d'une unité spécialisée. Une manière de mettre fin aux rackets des éleveurs par certains éléments des forces de l'ordre. Jean-Serge Bokassa, ministre centrafricain de la Sécurité publique.
Je propose de mettre en place une seule unité. Nous allons responsabiliser une unité spécifiquement pour le contrôle des convois qui arrivent à Bangui.
Il faut ajouter à l'aspect sécuritaire l'insalubrité au sein de la SEGA, elle-même en état de délabrement très avancé. Ces passants, on appelle à une action rapide des autorités.
Au niveau de ces gars ici, vraiment, on a beaucoup souffert ici. Il y a des odeurs. Dès que la pluie tombe là, vraiment, il y a une odeur qui se dégage jusqu'au niveau des quartiers.
Les responsables de la SEGA, cette unique société d'abattage des bêtes, installée aux abords du fleuve Oubangui, n'ont pas encore réagi à cette situation. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En prélude au sommet Afrique-France que le Mali doit accueillir en janvier 2017, Bamako doit faire peau neuve. À cette fin, les autorités administratives de cette ville ont engagé une opération d'assainissement des voies publiques. L'opération a démarré non sans difficulté car les commerçants, détaillants et autres vendeurs dans les rues de Bamako ne voulaient pas quitter les artères de la capitale malienne. Kassim Traoré.
Débutée le 21 juillet 2016, l'opération d'assainissement des voies publiques de Bamako a des objectifs bien précis selon le gouverneur de la capitale malienne, Sako Amikane.
Il s'agit de libérer les voies et les domaines publics parce que Bamako, tout le monde sait maintenant qu'il n'y a plus de passage pour les piétons ni pour des véhicules. Tout le monde est mélangé. Donc c'est la raison qui nous a poussé à mener cette opération pour assainir Bamako, rendre Bamako son nom d'antan.
Puisqu'il s'agit d'assainir la ville de Bamako, certains occupants des voies publiques n'ont pas posé de problème, comme Seba Keita, gérant d'un restaurant à la rue Princesse de Bamako.
On a tout enlevé, on a tout cassé, on a tout ramassé nous-mêmes. Non seulement on a cassé, mais on a tout ramassé. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit qu'on veut assainir Bamako, on veut élargir la route, on veut que les fossés soient dégagés.
Les incompréhensions sont nées aux alentours de certains grands marchés de la capitale, où les forces de l'ordre ont été obligées de faire usage de gaz lacrymogène. Cheikh Oumar Djabi, coordinateur de commerçants détaillants du marché d'Ibida.
On a simplement demandé à la police de donner un peu de temps aux déguerpis d'enlever leurs marchandises. Ils n'ont pas voulu. Et ils ont commencé à affronter, à lancer des gaz partout, créer une insécurité en ville pour rien du tout. Et cette situation, on le regrette.
Le gouverneur a déploré les échauffourées de la journée du 30 juillet passé, qui a occasionné 5 blessés, dont un grave qui est hospitalisé actuellement. Sako Amikan, gouverneur du district de Bamako.
C'est pas fait dans ce dessin. Nous n'avons jamais pensé que ça allait dégénérer comme ça, compte tenu du fait que tous les acteurs ont été consultés et que tout le monde était d'accord.
Face à la colère, les responsables des différents marchés de Bamako se sont mis en coordination pour dénoncer l'usage de la force et exiger l'arrêt des démolitions. Bamba Kanadjigi, de la coordination des commerçants détaillants de Bamako.
Que les plus hautes autorités prennent les dispositions pour mettre fin à ces opérations de déguerpissement en attendant que nous puissions avoir un cadre adéquat de concertation et de discussion.
Déjà, les élus de la nation ont écouté le gouverneur, les commerçants détaillants, les maires des 6 communes du district de Bamako. Des ministres aussi doivent être écoutés avant la synthèse et les recommandations qui seront soumises aux plus hautes autorités. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et c'est l'heure de parler politique américaine sur VOA Afrique à moins de 3 mois de la présidentielle en novembre prochain. On retrouve Nathalie Barge. Bonsoir.
Bonsoir Morgane.
Les candidats des partis démocrates et républicains, Hillary Clinton et Donald Trump, s'adressent tous les deux cette semaine au club économique à Détroit dans le Michigan.
Oui, Donald Trump s'est adressé ce lundi au club économique pour présenter son plan économique, tandis qu'Hillary Clinton le fera jeudi. Donald Trump appelle à plusieurs propositions visant à soutenir l'économie américaine. Il a déclaré vouloir diminuer les taxes, limiter la réglementation gouvernementale sur les entreprises et améliorer le sort des travailleurs de la classe moyenne. Son discours a été interrompu à plusieurs reprises par des manifestants qui ont été sortis de la salle par un service d'ordre musclé. Donald Trump a détaillé un plan chiffré sur la réduction des impôts, non sans lancer la pierre à son adversaire démocrate. Beaucoup de travailleurs paieront zéro impôt, a-t-il déclaré, avant de lancer qu'Hillary Clinton a passé sa carrière à voter pour l'augmentation des taxes.
Et il faut savoir que Donald Trump a obtenu le soutien d'au moins un membre de la famille Bush.
Oui, George Bush, le commissaire des terres du Texas et fils de l'ancien gouverneur de Floride, Jeb Bush, est vu sur une vidéo postée en ligne encourageant les républicains à s'unir derrière lui. Selon le Texas Tribune, la vidéo a été prise samedi lors d'un meeting des militants du Parti républicain de l'État. Jeb Bush, qui était un favori au début de la course, a déclaré en mai qu'il ne voterait pas pour Donald Trump. Les anciens présidents Bush, père et fils, ont également retiré leur soutien au candidat républicain.
Des candidats quasiment inconnus du grand public commencent à faire parler d'eux. Le sentiment ni Trump ni Clinton étant toujours aussi présent dans cette campagne.
Evan McMullen, en effet un ancien officier du contre-terrorisme de la CIA, a annoncé sa candidature à la présidence ce lundi pour barrer la route au candidat officiel du Parti républicain Donald Trump. Le groupe Better for America, une organisation qui ne peut pas officiellement approuver ou soutenir la candidature de McMullen, se dit confiant qu'il pourrait agir comme perturbateur pour des États où certains républicains sont encore réticents vis-à-vis de Donald Trump. Une annonce est attendue en ligne ce soir selon MSNBC.
Merci Nathalie.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Ouf, que le temps passe vite, nous sommes déjà à la fin de cette édition. Merci Michel Joseph d'avoir assuré la mise en onde avec l'assistance de Joe Gill à la console, présentation Morgane Guiriac et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos 1,5 million de fans sur Facebook. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.